l'éducation sexuelle à un enfant de 3 ans, mais...
Ouais, il a hyper pas ses pantalons.
Puis tu sais, c'est le genre de jeu qu'on ouvre la boîte, on sort le renard et on commence à jouer. Les règlements sont intuitifs, c'est super le fun. Vous allez voir, là, quand il perd ses pantalons, ils disparaissent. On a déjà eu des clients en magasin.
Ah, OK, je viens de comprendre. Ils disparaissent pour vrai.
Ah oui, anecdote, il y a des clients en magasin qui sont déjà venus pour nous demander... Genre, les pantalons, il n'y a plus de pantalons, sont où?
Mais pour vrai, sont où?
Sont en dessous de lui, tout simplement. On a juste à tirer dessus, puis on les replace.
Oh mon Dieu, c'est
donc
bien fait.
C'est super drôle.
C'est vraiment le fun. C'est
ça va
faire rire les enfants.
Ben oui,
plus
ils vont vouloir enchaîner les parties, puis c'est un beau moment là, en famille pour jouer à ce jeu.
C'est à partir de quel âge tu peux jouer à ça avec eux?
4 ans et plus.
4 ans et plus, bon. Jeu Tetra Game.
Oui, j'avais tellement hâte de vous parler de ce jeu-là. C'est un 5 ans et plus. Un jeu d'équilibre où on doit empiler des espèces de formes qui vont ressembler un peu à ceux qu'on voit dans Tetris,
ah,
par
ben
exemple.
Oui, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu vois les L, les escaliers, le corps à quatre.
Ouais. Puis là, je vous pose une question. Vous pensez que ce jeu-là se vend combien?
50 $.
Ouais, je vais dire 35-40, genre.
12,90.
Mais ben,
wow. 12,90. Jeu super simple. Donc, Audrey, c'est à ton tour de venir jouer avec moi.
Mais ça va me faire plaisir, Alex.
C'est super simple. On va piger des cartes qui vont nous dire quelles pièces on doit prendre et on va les placer sur le petit triangle qu'on doit garder en équilibre. Pour gagner, il ne faut pas faire tomber la structure tout simplement.
OK, c'est ça, parce que c'est pas attaché, c'est pas
stable,
fixe. Il
ouais,
faut tout le temps que tu sois en équilibre d'un bord ou de l'autre pour être sûr. C'est un peu comme un Jenga, genre. Une certaine forme de...
Mais c'est
ou...
comme un jeu de balance où il faut vraiment bien positionner nos pièces pour ne pas faire tomber, en fait, la balance qui est en mode Tetris un peu.
Puis si à quel moment tu perds, c'est celui qui fait tomber le tout, finalement?
Exactement.
Ah, c'est sympathique,
c'est
par exemple.
Super
c'est simple au bout.
Encore une fois, les règles sont super simples. Tellement qu'il n'y a pas de règles dans la boîte.
OK, donc on ouvre la boîte, tu commences.
Oui, les règlements, c'est écrit, on place le Tetra Game, on met on empile les pièces, puis il ne faut pas les faire tomber, tout simplement.
C'est le fun,
ça. 5 ans et plus, efficace, on adore.
On termine avec un des jeux que j'aime le plus, je pense. C'est un jeu qui a la cote dans les parties de Noël chez nous, les fins de semaine quand on n'a rien à faire. Je le traîne partout, ce jeu-là, c'est pas compliqué. Taco, chat, poulet, poutine, pizza. Moi, d'habitude, c'est l'autre, je pense, que
taco,
j'ai.
Taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza.
Taco, chapeau, exactement. Mais c'est le même principe, au final.
Oui. Édition Splash, en fait. Donc, on va pouvoir jouer dans la piscine. Je sais pas ce qui se passe dans le monde des jeux de société depuis 2-3 ans, mais ils adaptent les jeux populaires en version imperméable.
C'est très simple. Il y a probablement dans les familles, ils ont tous une eau de ripain chaud qui finit par renverser une bouteille d'eau sur les cartons de jeu, puis ils se sont rendus compte que c'était bien plus pratique d'avoir une carte qui résiste
mais
à ça.
Mais c'est l'été passé, je pense, Alex, t'es venu nous présenter une eau.
Uno,
si je me trompe pas, Uno Splash.
Ouais, exactement. Il y a aussi Spot It qui est imperméable également, une version piscine, en fait, waterproof. Ce jeu-là, super simple, jeu de rapidité et d'observation. Il faut être le premier joueur à se débarrasser de toutes ses cartes. Donc, à tour de rôle, on va dire taco, chat, poulet, poutine, pizza. Si ce qu'on dit correspond à ce qu'on présente, il faut être le plus rapide et appuyer sur la pile. Le dernier qui tape sur la pile doit ramasser le paquet de cartes. Le premier joueur à se débarrasser de toutes ses cartes va gagner la partie. Présentement, vous êtes peut-être en tournoi de hockey. Vous partez dans le sud pendant la semaine de relâche. Vous avez une piscine, un spa à la maison. Ces jeux de cartes-là,
c'est un incontournable.
C'est des incontournables. Moi, quand je vais me baigner là, dans le sud ou encore là, à l'hôtel, là, je suis un gamin, je suis du type Marco Polo, on joue à tag. Fait que moi, jouer à des jeux de cartes en piscine, là, ma grande passion, puis c'est un jeu qui se traîne bien, il vient avec un petit filet comme ça pour ranger les cartes. Fait que vous êtes en voyage. Apporter ça.
J'ai une question pour toi. Dans ce jeu-là, il y a des petits personnages par rapport, là, des Whistiti,
des Jokers.
Ça, là, comment ça marche? Ça fait-tu des points supplémentaires? Ça disqualifie-tu des gens?
Non, dans le fond, si tu présentes, mettons, le singe, tu dois faire le gorille, mettons, puis tu tapes par la suite, le dernier à taper va récupérer.
Fait que c'est un défi supplémentaire.
Exactement.
Finalement. Mais je vous le dis, vous allez rire. L'avez-vous déjà joué à ça, les filles?
Non. Absolument.
C'est tellement niaiseux, Antonine. Là,
Mais c'est une partie de main chaude aussi. Là.
Ah oui, oui. Ah. Ça va vite.
Je pense que ça va me stresser.
Ben, à pour vrai, oui, parce que les images, des fois, vont être aux couleurs d'un certain mot, tu sais, dans la thématique. Puis, ah, mon Dieu, c'est niaiseux. C'est drôle, là. Honnêtement, tu tannes pas. Fait que taco, chat, poulet, poutine, pizza, splash. Alex, Richard. clubjouet.com. Merci beaucoup d'être passé encore. 111 rue Bouvier. Là, répète l'activité qu'il y a à partir de demain, mettons, là,
demain,
pour les
prochains
jours.
Demain, c'est la pâte à modeler. Il va y avoir des activités créatives également avec des sycomores, avec les différents ardoises à compléter. Et il y a aussi Nebula Stars ce samedi.
Et si vous avez aimé un ou les jeux qu'on vous a présentés dans les dernières minutes, chaque fois qu'Alex vient en studio, ça vient avec un paquet cadeau qui n'est pas pour nous, mais pour vous. Et donc, tous les jeux qu'on vous a présentés dans les dernières minutes, ben, vous pouvez les gagner. 418-971-1021, c'est super simple. Lequel votre préféré, puis vous gagnez le lot de jeux complets pour la semaine de relâche, pour les enfants et pour les adultes aussi, j'ai envie de dire. Rapidement, merci encore, Alex.
Merci.
Rapidement, si vous êtes dans la circulation en ce moment, ben, sur les routes, capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, ça commence à ralentir. Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne, même que Laurentienne-Sud, dans la bretelle, pour aller chercher la capitale, là, il est là principalement le ralentissement. Ça s'entame aussi à l'entrée des ponts et sur la rive sud, c'est toujours dégagé. Quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-1021. Texto, Gravel en retour, on revient dans quelques instants. Gravel. C'est le retour de Boulevard 102.1 jusqu'à 18h. Denis Gravel qui est en vacances jusqu'à la semaine prochaine. Bon, lui dit ne pas être en vacances parce qu'il est avec les enfants, mais il est en relâche. Donc, au travail jusqu'à lundi prochain. Il dit qu'il vient prendre ses vacances à partir de lundi. Fait qu'on s'occupe de ce qui se passe ici à Boulevard 102.1 en attendant. Je m'appelle Audrey Véro qui est là. Évidemment, fidèle acolyte. Antonine Iacarini qui est avec nous pour la semaine. C'est un plaisir que tu sois là en passant, mon ami.
Meilleure semaine de relâche à vie.
C'est vraiment le fun.
Vraiment content. Tu joues avec la pâte à modeler.
Jouer. C'est ça! Ton cœur d'enfant!
Oui!
J'ose de politique, j'ose de toutes sortes
d'affaires!
Hey, c'est moins un en ce moment sur Québec. C'était ensoleillé, les nuages qui commencent à couvrir le ciel un peu plus. Ce soir et cette nuit, on est à moins 7, 60% de possibilité d'averse de neige. Pour ce qui est de demain, 2 degrés alternance soleil-nuage. Jeudi, vendredi, samedi, là, c'est moche. C'est très nuageux, des possibilités de neige aussi. On est dans les moins 4, moins 1. 5 pour samedi, ceci dit, dimanche, retour du soleil avec 5 degrés. Quoique, à chaque fois que je vous fais la météo, ça change, fait qu'on va se concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Dans les prochaines minutes, en fait, dans la prochaine heure, on va recevoir Alex Leblon, planificateur financier qui vient faire son tour dans Gravel en retour, pas mal tous les mardis. On perd pas nos bonnes habitudes, même si Denis est pas là. Et Alex va venir nous jaser de tout ce qui est fraude, mais fraude fréquente chez les jeunes aussi. On a souvent tendance à penser que, c'est nos aînés, c'est les gens plus vulnérables, les gens qui sont seuls.
Les boomers.
Ouais, les boomers, tu sais, qui savent pas trop comment se libérer ou détecter, finalement, la fraude, qu'elle soit par téléphone, qu'elle soit direct à la maison quand on vient chercher ta carte puis ton NIP, ou sur Internet.
Ou des masques coréens, par exemple.
C'est un très bon exemple, Anthony, des masques coréens. Il y a un sondage RBC qui est sorti, puis l'idée est un peu venue de là, parce qu'il y a des dossiers qui ont découlé de ça dans l'actualité. Il y a un sondage RBC qui révèle que les Canadiens sont confrontés à des fraudes de plus en plus fréquentes. Je pense qu'on ne s'apprend rien à ce niveau-là, là. Mais c'est 81 % des Canadiens qui estiment qu'une nouvelle fraude qui apparaît presque chaque semaine. Donc, on se renouvelle constamment. Puis des fois, c'est super subtil. On en parlait un peu en début de show. Des fois, c'est un petit 5 piastres par-ci, par-là dans ton compte qui va se prendre. Tu t'en rends pas compte, mais c'est parce qu'au nombre de petits 5 piastres par-ci, par-là, au nombre d'individus qui sont touchés, ça fait des bons montants quand même qui sont récoltés. Puis le sondage mentionne aussi que 87 % des Canadiens affirment que c'est de plus en plus difficile de déterminer si une publicité est authentique ou frauduleuse. Je ne sais pas, Anto, toi, si tu es capable de déterminer ce qui est vrai et pas, mais c'est de plus en plus difficile.
C'est de plus en plus sophistiqué. Tu sais, il y a quelques années, tu disais, t'es tombé dans le panneau, il me semble que ça paraissait que c'était frauduleux. Maintenant, honnêtement, là, c'est vraiment plus aussi.
Plus tough de juger. 39 % des gens qui n'ont pas confiance en leur capacité de repérer les fraudes qui sont alimentées par l'IA. 41 % qui ont déjà ouvert un courriel ou une pièce jointe ou cliqué sur un lien. Ça, souvent, on l'entend. Cliquez pas, même si ça a l'air crédible, ça vaut pas la peine. Appelle ton institution financière à la limite, mais ne pas cliquer. C'est quand même 41 % des gens qui le font. Et dernière statistique intéressante, c'est 54 % des Canadiens qui reconnaissent ne pas toujours savoir quelles mesures prendre pour se protéger. Fait que c'est de tout ça qu'on va jaser tantôt avec Alex Leblon, qui est planificateur financier. En attendant, ben, y a quand même quelques petites affaires à mentionner dans les nouvelles, des nouvelles affaires qui sont apparues, des nouvelles, Véro?
Oui, le suivi sur l'Iran, vous rappelez que ça a été une allocution d'Emmanuel Macron, président de la République française, un peu plus tôt cet après-midi pour parler de la mobilisation de la France en indiquant au passage quelles étaient les nouvelles mesures qu'il mettait en place pour venir en aide à leurs alliés pour les protéger des tirs qui actuellement ont lieu dans le secteur du golf. Toujours pas de réaction de Mark Carney qui est en Australie. Il doit être levé à cette heure-ci. Là, j'ai hâte de voir ce sera quoi les engagements au courant des prochaines heures. Le Soleil qui nous donne un peu plus de détails sur l'accident qui s'est passé la semaine dernière. La voiture à contresens avec une ambulance. Les deux ambulanciers qui sont toujours hospitalisés au moment où on se parle. Puis le conducteur du véhicule qui lui est décédé. Puis la théorie première, puis c'est, je pense que c'est logique dans des circonstances comme celle-là, c'est souvent le geste volontaire. Et dans ce cas-ci, selon les informations qui sont sorties de la part de la SQ, ce serait des problèmes cognitifs qui auraient fait que le conducteur se serait engagé dans la mauvaise direction.
Ça, ça me fait toujours
de
la peine.
Oui, puis je me pose tout le temps la question à savoir quand je suis témoin de personnes qui devraient peut-être pas prendre le volant parce qu'elles semblent justement moins à l'affût.
Je fais quoi? Oui.
Puis, tu sais, c'est tout le temps...
On dirait qu'on est déchiré entre la logique puis le devoir de citoyen qu'on a.
Mais se mêler de ses affaires.
Puis le fait que ces gens-là, souvent, c'est la seule liberté qui leur reste.
C'est un grand drame dans la vie de certaines personnes de perdre leur permis de conduire.
Perte d'autonomie,
Perte d'autonomie, exactement.
C'est fou, là. Puis c'est prouvé, en plus, là, tu vois que ça dégringole à partir du moment où tu sors plus de chez vous, que tu n'as plus de moyens de te déplacer si tu n'es pas très bien entouré. Fait que non, c'est triste pour vrai.
Le tribunal qui a aussi entériné l'entente de 5,1 millions de dollars dans le cadre des actions collectives contre le Mont-Sainte-Anne, des incidents de télécabine qui s'étaient déroulés en 2020. Et en terminant, la CAQ qui a fait connaître les règles des débats à la campagne à la direction qui vont se dérouler les 21 mars à Québec et le 28 mars à Laval.
On a assez hâte!
Sans surprise, là, des sujets comme l'économie, les finances, les infrastructures, les régions, la santé, l'éducation y passent, mais on a scindé ça en deux selon les débats.
On a une Antonine Iaccarini qui est en studio pour la semaine avec nous. On ne peut pas avoir Anto avec nous autres et pas parler d'actualité politique.
C'est
quand
bien
même
beau la pâte à modeler, là, puis les reality shows. Là.
Mais tu sais, où tu es bonne et où souvent tu es pertinente et tu rayonnes, c'est quand on parle de politique. Et là, nos chefs de parti sont de vrais globe-trotteurs en ce moment.
Oui.
Véro l'a dit un peu plus tôt, Mark Carney qui est en Australie après un passage en aide. Pierre Poilievre qui est en Europe. Fait qu'on fait le point un peu sur tout ça. Bref, tour d'actualité politique. On va profiter de ta présence.
Ben oui, parce que là, on a un premier ministre qui est en mission commerciale et politique.
Il a fait plusieurs missions depuis les dernières semaines.
Il est vraiment sur un blitz. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver des nouveaux marchés, on veut créer des nouvelles alliances. C'est un peu la suite aussi du discours à Davos.
Puis on avait vu, entre autres, les effets par rapport à la visite en Chine, en sachant que depuis en fin de semaine, en fait, il y a certains tarifs qui sont tombés, il y en a d'autres qui devraient venir. Fait qu'il semble déjà y avoir des impacts assez tangibles de cette tournée mondiale.
Oui, puis on aurait pu s'attendre de la part quand même du premier ministre qu'on est dans un changement complet d'approche là, par rapport à nos relations internationales, par rapport à nos relations commerciales. On pourrait s'attendre à ce que ça prenne du temps, mais c'est vrai qu'on voit déjà des ententes qui se font signer. Mmh. Parce qu'il faut le dire, là, des fois, ça peut prendre des années avant qu'on arrive à une entente. Là, M. Carney est allé en Inde. L'Inde, c'est extrêmement important. Je pense que des fois, on le sous-estime parce qu'on parle tellement de la Chine. C'est une grosse puissance économique. La Chine, c'est la deuxième puissance économique. Mais l'Inde, c'est le pays le plus populeux au monde en ce moment. Et en plus, l'avantage supplémentaire de faire affaire avec un pays comme l'Inde, c'est que c'est une démocratie. Puis, c'est pas parfait. Et on a des enjeux avec l'Inde. On en a eu à la fin du règne de Justin Trudeau. Il y avait eu un assassinat sur notre territoire, sur le territoire canadien. Puis M. Trudeau avait dit ouvertement que c'était le gouvernement indien qui avait organisé
ça. Ça avait
amené
un gros froid diplomatique.
Énorme refroidissement des relations. Donc, c'est pas parfait avec l'Inde, mais c'est quand même une démocratie assez stable et c'est une économie en forte croissance d'un marché hyper intéressant pour le Canada.
C'est peut-être niaiseux comme question, là, mais on dirait que, on fait confiance quand on entend parler de ça, ces voyages-là un peu politiques et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste des rencontres après des rencontres avec des politiciens de là-bas?
Ta question est zéro niaiseuse. C'est très méconnu comment ça s'organise, ce genre de mission-là. Premièrement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de préparation avant. Donc, quand on envoie un premier ministre ou un président, là, dépendamment des pays, aller en mission dans un autre pays, bien, il y a eu des fonctionnaires qui se sont rencontrés, des diplomates qui se sont rencontrés, des fois des ministres, dépendamment des secteurs.
On a établi des priorités, j'imagine.
Oui, puis ce qu'on veut, c'est qu'une fois que notre chef d'État arrive, il n'est finalement qu'à boucler des boucles. T'sais, on termine un peu le travail. Puis ce qu'on veut le plus possible, c'est d'avoir des chefs d'État qui signent des ententes ou qui annoncent quelque chose. Mais ça, c'est la fin d'un long processus qu'on ne voit pas toujours auparavant. Donc, pour l'Inde, c'est très important. Même s'il y a encore des enjeux, on s'attend à ce que l'Inde, ce soit la troisième économie mondiale d'ici 2030. Et on a quand même si on n'a pas une proximité géographique avec l'Inde, on a une certaine proximité historique. Quand je dis « on », au Québec, on s'en rend moins compte parce qu'on est moins britannique un peu dans l'âme.
Mais les colonies à l'époque?
Bien, on faisait partie du même empire colonial, empire britannique, et les Indiens parlent beaucoup anglais. Il n'y a pas de barrière de la langue avec l'Inde. On fait déjà quand même pas mal d'affaires là, avec l'Inde, mais le potentiel est extraordinaire. Donc, M. Carney qui termine sa mission en Inde et qui s'envole, qui s'est envolé et qui est rendu en Australie maintenant. L'Australie aussi, c'est un marché qui est intéressant. C'est pas une économie qui est aussi imposante que celle de l'Inde, mais c'est un allié évidemment naturel pour le Canada, aussi même appartenance au Commonwealth.
Mm-hmm. Politiciens, ils visitent-tu un peu quand ils s'en vont là-bas?
Monsieur Carney est moins dans le... Tu sais, c'est pas comme Justin Trudeau.
Qui se déguisait pour aller en Inde, mettons.
Qui se déguisait, puis qui allait au Taj Mahal, puis qui faisait des petites prières, puis que ça a fait la une du Journal de Montréal, puis qu'on a lu pendant 3 ans. Monsieur Carney, lui, sa priorité, c'est beaucoup plus l'économie, le commerce. Mais oui, tu peux, des fois, ces missions-là, quand on va organiser avec des ministres ou des premiers ministres, on va aussi organiser certaines visites, des discussions. On fait pas juste le corder des rencontres. Mais sachez qu'il n'y a pas de niaisage dans ces missions-là. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé au ministère des Relations internationales. Puis des fois, quand la ministre des Relations internationales amenait un autre ministre sectoriel avec elle pour les missions, il y a des ministres qui faisaient le saut avec l'horaire. Là.
Ah oui.
Tu sais, t'arrives
eux autres, ils étaient comme contents d'avoir un voyage sur le bras, puis que finalement, il fallait qu'ils travaillent. Il y avait des tâches.
Je pensais qu'elle allait prendre un petit café sur la terrasse en après-midi. Non, les rencontres sont cordées, puis il y a un décalage horaire et t'as pas 3 jours pour t'en remettre. Là. C'est maintenant. Donc, souvent, tu skippes une nuit. Si vous pensez qu'ils voyagent tous en première classe, c'est pas nécessairement le cas. Donc, t'arrives, t'es un peu magané, tu commences tes rencontres, t'as pas très bien dormi.
Faut que ça roule.
Et il faut que ça roule. Donc, on essaie de faire le plus possible. Puis, tu sais, il faut quand même se rappeler que politiquement, quand il y a des missions, il faut qu'on justifie chaque dollar. Hein,
parce qu'on voit que c'est mal vu.
C'est
les
mal
gens
vu.
Pensent souvent que tu t'en vas faire un petit trip. Là, que...
C'est parce qu'il y a eu des abus. Puis, en fait, il y a eu certaines personnes qui ont été tellement abusives dans leur manière de dépenser les fonds publics qu'à un certain moment donné, on pense
l'imaginaire.
Que c'est la manière de faire les choses.
Oui. On se rappelle de Bev Oda, qui était une ministre fédérale qui avait acheté un jus
d'orange
à 30$.
Ben oui.
Bon, ça marque l'imaginaire, mais c'est assez anecdotique. Il y a eu des missions aussi des députés de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand même quelque chose, si mettons que...
Il y en avait eu à Ottawa aussi. Là, qui était
il y en a tout le temps. Mais la règle, la norme, c'est beaucoup plus d'avoir des missions où on sait bien qu'il faut justifier chaque dollar. Puis de toute façon, en ce moment, je pense que pour M. Carney, tout le monde sait que la diversification des marchés et la création de nouvelles alliances. J'ai l'impression que l'appui est quand même assez grand. L'Australie aussi, c'est très important. C'est un partenaire qui est fiable, qui est stable. Si on est capable de multiplier les échanges commerciaux, c'est sûr que ça va être hyper positif. C'est aussi un pays dans lequel, évidemment, ça parle anglais. Donc, c'est des bonnes priorités qui ont été identifiées par M. Carney. Et l'Australie fait partie aussi de ces puissances moyennes. Tu sais, quand on est allé faire ce discours...
L'appel à Davos.
Et l'Australie répond, tu le disais tantôt en manchette, l'Australie répond présent au message qui a été lancé par le premier ministre Carney que les puissances moyennes doivent multiplier les efforts pour compenser ce qui se passe sur la scène internationale avec les États-Unis.
C'était un pied de nez plutôt agile sur le plan des mots à dire « Je comprends qu'il y a des grosses puissances comme les États-Unis, la Russie puis la Chine qui jouent du coude et qui jouent fort, mais nous autres, on est plusieurs puissances moyennes qui, en s'alliant, vont être capables d'avoir plus de poids sur l'échiquier mondial. »
Si les yeux de tout le monde arrêtent d'être tournés juste vers les grandes puissances, ça va avoir un impact. Donc, ça semble logique, mais c'est pas si facile à faire. Puis, tu sais, il faut quand même rappeler que notre dépendance comme pays aux États-Unis est énorme. Là. C'est 70 % de nos échanges commerciaux.
Mais c'est la géographie qui a poussé dans cette direction-là.
Et la facilité, parce que les États-Unis, c'était plus qu'un partenaire commercial, justement, c'était un ami. Et là, je pense que le Canada a comme une prise de conscience que les amitiés, en ce moment, c'est pas ça. Donc là, on a vraiment des alliances qui se forment beaucoup plus sur des intérêts communs plus à court terme, ce qui fait qu'on fait peut-être un peu plus de compromis. T'sais, faire des affaires avec la Chine, avec l'Arabie saoudite, puis même avec l'Inde, ça pose certaines questions éthiques en termes de, par exemple, en Chine, la question des droits humains, etc. Mm-hmm. Mais en ce moment, on est beaucoup plus sur des intérêts économiques, puis on dirait que ça met d'autres intérêts, évidemment, en veilleuse. Un jour, ça va nous rattraper, mais pour l'instant, j'ai l'impression que l'appui est assez grand. Et il faut rappeler que M. Carney, ses sondages, ça va très bien. Donc, on voit que l'appui populaire est encore là pour lui.
C'est fou parce qu'à un certain moment donné, on s'est posé la question parce que lui s'était présenté, s'était engagé à régler la situation avec les États-Unis. On a vécu dans la dernière année la situation qu'on connaît. Ça, c'est mettons, selon la journée, ça peut bien aller comme ça peut terriblement mal aller dans nos relations avec les Américains. Puis on sous-entendait que ça finirait par avoir un impact sur la popularité de Mark Carney de ne pas avoir réussi à répondre à cet engagement-là. Est-ce que c'est justement d'aller chercher d'autres partenariats qui compensent pour la situation?
Je pense qu'en ce moment, ils travaillent sur les bonnes choses, mais ça n'efface pas le fait qu'en campagne électorale, on nous a vendu autre chose.
Tout à fait.
OK? Oui, on nous parlait de diversification économique, de commerce interprovincial et
beaucoup,
tout ça.
Beaucoup, oui, oui.
Mais on nous a quand même dit « elbows up ». Donc là, on va se battre contre les États-Unis. Puis on a comme surfé sur une colère que les Canadiens avaient. Ils se sentaient trahis face à leur ami qui les a stabés dans le dos, là, finalement.
C'est comme « choisissez-moi, je vais être la bonne personne pour me mesurer à Donald Trump ».
Et on a laissé entendre que, un, on allait répliquer, donc des tarifs contre les tarifs, ce qui pas le cas en ce moment, et je pense encore une fois que c'est la bonne chose dans l'état actuel des choses, mais on a laissé aussi croire qu'on allait régler la situation. Au point où on en est un an plus tard, on sait que ça ne se réglera pas tant que Donald Trump sera en place, parce qu'il n'a pas une vision gagnant-gagnant. Une négociation, c'est comme ça. Les deux partenaires ou les deux adversaires arrivent à table avec l'intention de signer une entente, d'arriver à un accord gagnant-gagnant. M. Trump ne pense pas comme ça.
En fait, c'est comme si on ne jouait pas au même jeu.
On ne joue pas au même jeu. Donc, puis d'ailleurs, je pense que c'est Francis Gosselin qui avait fait une comparaison que je trouve extraordinaire, qui avait dit « c'est comme jouer aux échecs avec un gorille ».
Ouais.
Donc, le gorille, il donne des coups sur la table, puis les pièces en volent partout. Fait que tu as beau essayer d'avoir le meilleur coup pour faire un échec et mat, tu ne joues pas au même jeu. Voilà pour Mike Carney, mais je veux quand même vous parler aussi de Pierre Poilievre.
Qui lui aussi est en World Tour, puis c'est comme si moi j'avais moins perçu ça en général que des chefs de l'opposition décidaient d'aller se promener pour se faire valoir quand ils ont de la misère à se faire valoir dans leur propre pays.
Ça sert à quoi de voyager quand tu es dans l'opposition, mettons?
Bon, la première des choses, c'est que moi j'ai quand même un peu de difficulté avec les partis d'opposition qui font beaucoup de relations internationales publiques. C'est correct d'entretenir des relations avec les partis, de préparer le terrain, parce que les partis et les gouvernements des autres pays veulent quand même entretenir des relations avec les oppositions pour préparer
s'il
y avait un changement de pouvoir.
Tu ne veux pas partir à zéro.
Mais j'aime pas quand... Même quand moi, je travaillais dans l'opposition, j'ai toujours eu la même ligne de conduite. C'est que tu ne veux pas faire une cacophonie à l'international. Il faut quand même avoir une certaine solidarité puis envoyer un message qui est commun. Même si des fois, notre gouvernement nous déplaît, je dis toujours prudence, prudence pour les partis d'opposition. Là, ce que Pierre Poilievre a fait en ce moment, ce n'est pas de faire un tour pour parler contre le gouvernement. Il veut se positionner. Il ne faut pas penser que le message est envoyé et adressé à l'étranger. Au contraire, il envoie un message ici aux électeurs canadiens.
Voici comment je serai un bon chef d'État.
Et voilà. Parce que là, je vais nous ramener un peu en arrière avec Pierre Poilievre. Quand Pierre Poilievre est devenu chef du Parti conservateur en 2021, il était très différent de ce qu'il est maintenant. Moi, je l'appelais Crypto Boy à l'époque. Là, je trouvais qu'il avait l'air d'un petit bagarreur avec ses petites lunettes là, qui tradait de la crypto. Bon, il s'est transformé. Il a enlevé ses lunettes. Là.
Il a mis un T-shirt moulant blanc.
Il a mis
un T-shirt moulant. Il a fait le tour du Canada en VR.
Il s'est entraîné aussi. Là. Il est bien musclé et tout ça. Puis il a décidé de changer un peu son style, mis sa famille aussi de l'avant. T'sais, il s'est monté une image.
Il a appris à sourire.
Il a appris à sourire. Il fait des petites blagues. Il a parlé un petit peu plus de sa famille, dans des discours. Pendant la campagne électorale l'année passée, il n'était pas très agressif non plus. Il ne s'était pas adapté à son nouvel adversaire, ça lui a été reproché, mais il avait quand même commencé sa métamorphose. Mais c'est comme s'il n'avait jamais achevé sa métamorphose pour devenir un futur premier ministre. Il gardait toujours ses réflexes d'opposition. À un moment donné, il glissait sur des pleurs de banane. Vous rappelez-vous quand il est allé dans un podcast et qu'il a dit que Justin Trudeau devrait être en prison? Là?
Oui, mon Dieu, oui.
Donc, il y avait encore des relents de ce chef d'opposition éternel, parce que c'est un bon chef de l'opposition. Il y a toujours des lignes assassines, puis des images très fortes, et tout le temps à l'attaque. Mais à un moment donné, quand il faut que tu deviennes premier ministre, il faut que tu sortes de « il faut que je gagne ma journée comme chef de l'opposition » pour démontrer que tu peux devenir premier ministre.
Ça se peut-tu, ça, vraiment changer ton image?
Y en a-tu qui ont déjà réussi?
La perception des gens?
Honnêtement, tu ne changes jamais vraiment ce que tu es. Mais oui, tu peux changer, tu sais, moi, je pense à un 15 %, OK? Tu peux t'adapter. Je pense à une Mme Marois, par exemple, quand elle a commencé versus quand elle est devenue premier ministre. Il y a des choses qui avaient été ajustées. Des fois, on va ajuster ta manière de communiquer. Des fois, on va ajuster ta coiffure,
dans
tes
vêtements.
Dans son
cas, c'était les vêtements.
On lui avait
donné des uniformes.
Ses foulards. Ouais. Exact. On l'avait Angela Merkelisée. Tu sais, Angela Merkel, ouais. Qui était très... Il n'y avait pas beaucoup d'éléments féminins dans son style.
Plus sobre.
Plus sobre un peu. Donc oui, tu peux changer jusqu'à un certain point, mais le naturel finit toujours par revenir au galop parce qu'on ne change pas la personnalité des gens. Puis je conclue là-dessus, mais Monsieur Poilievre, s'il veut vraiment terminer sa métamorphose et réussir à montrer qu'il est premier ministre et que lui aussi s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, qu'il a des solutions à proposer face aux États-Unis, il a besoin de temps parce que c'est vraiment un gros changement de paradigme. Il ne l'a jamais fait. Donc, M. Poilievre ne veut pas qu'il y ait des élections ce printemps. Même, je pense qu'il préférerait que M. Carney réussisse à aller chercher sa majorité.
Ça lui donnerait le temps de finir sa transformation.
Oui, puis ça ne tomberait pas sur le dos de voter avec le gouvernement quand il y a des votes de confiance.
Peux-tu nous expliquer dans quel contexte il y aurait des élections fédérales?
Oui, étant donné que le gouvernement fédéral, Carney, est minoritaire, à chaque fois qu'il y a un vote de confiance, puis un vote de confiance, ça peut être sur différents éléments, mais par exemple sur un budget ou un projet de loi très important, le gouvernement risque de tomber parce qu'il y a une majorité de députés qui ne votent pas nécessairement avec le gouvernement. Donc, ça fait en sorte qu'un parti comme le Parti conservateur, des fois, se retrouve avec l'odieux de se dire « crime, je vais être obligé de voter avec le gouvernement si je ne veux pas aller en élection ». Et ça, ça peut être très lourd à porter pour Pierre Poilievre. Cet automne, il y a eu un budget et il y a eu un vote. Puis là, tout le monde se regardait les oppositions. Personne n'avait envie d'aller en élection. Puis c'est comme, c'est qui va nous sauver en votant avec le gouvernement? Mm. Puis les conservateurs avaient même des députés qui étaient en réserve que si jamais ils sentaient que le gouvernement allait tomber, qu'il y a des députés qui allaient s'absenter.
Il se cachait derrière les rideaux, là.
Il se cachait derrière les rideaux. Ouais, Drew Scheer était caché derrière un rideau. Donc, ça, là, si M. Carney réussit à aller chercher une majorité par les transfuges qu'on a connus,
ils ont plus ce jeu-là à faire.
Ils ont plus ce niaisage-là à faire. Ça ne sera pas de leur faute. Il y a deux élections partielles qu'on peut prévoir. Trois élections.
Il y en a deux en Ontario puis une en Terrebonne.
Tu as absolument raison. Puis peut-être même quatre si Alexandre Boulris finit par démissionner. Donc, pourrait M. Carney aller chercher une majorité de cette manière-là? Je pense que M. Poilievre prie fort pour que Mike Carney réussisse à y arriver, à aller chercher ses députés pour avoir le temps de compléter sa métamorphose de crypto-boy vers premier ministre du Canada.
On dirait que tu parles de Pokémon.
Et moi, j'adore ça.
C'est comme, les politiques, c'est comme toutes des petits Pokémon.
Ben oui, hein? Faut les prendre comme ça. Antonine Iacarini qui est avec nous pour la semaine. Merci, Anto, pour ta petite chronique politique. L'actualité, on a fait pas mal le tour côté Carney, côté Poilievre. Si vous avez des questions, vous gênez jamais. Hein? 88-971-1021 texto. Vous dire rapidement que dans la circulation en ce moment, il y a un véhicule lourd en panne sur Dufresne-Montmorency Est. Début de la sortie vers la capitale Ouest, là, la voie de droite qui est bloquée de ce côté-là. Je regarde la carte capitale Est entre Henri IV et Laurentienne en ce moment. Difficile. Si vous êtes sur Laurentienne Sud, vous allez chercher capitale Ouest dans la bretelle. Il y a un ralentissement qui s'installe. Charest Est, Auteuil, Robert Bourassa. Sinon, Henri IV Sud, de versant nord au pont La Porte, ça commence à être quand même assez compliqué. Sinon, c'est sur la 20 direction Ouest, sur la rive Sud. Rien pour appeler sa mère, là. C'est la 20 Ouest, auteur Taniata, qui est quand même un classique. Autre chose, ça passe toujours par le texto, je répète, 88-971-1021. On revient dans quelques instants avec Alex Leblanc. Gravel. Vous rappelez le véhicule lourd en panne sur Dufresne-Montmorency Est, début de la sortie vers Capitale Ouest, la voie de droite qui est partiellement entravée. Assez compliqué d'ailleurs sur la capitale, direction Est aussi, là, entre Henri IV et Laurentienne. Et à l'entrée des ponts, direction Sud, ça commence déjà à être super compliqué aussi, surtout si vous arrivez d'Henri IV. Je vous avais promis un Alex Leblond cette semaine. Je vous avais promis un sujet sur les fraudes financières qui touche un peu plus les jeunes qu'on pense. On a souvent une tendance à penser que c'est les plus âgés qui vont être plus vulnérables, qui vont se faire prendre. Et pourtant, les jeunes veulent donc bien faire de l'argent facilement et rapidement. On dirait qu'il y a une génération, la dernière, qui est habituée à un salaire des fois un peu plus élevé parce que t'as comme le gros bout du bâton avec ton emploi. C'est en train de revirer de bord, puis il y a des gens qui cherchent ces manières-là sur Internet de faire des sous plus rapidement et se font prendre. Alex Leblond, planificateur financier. Hello!
Salut!
Toujours un plaisir de t'accueillir. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est comme ça que tu as nommé ta chronique. Puis ça me fait quand même rire parce que des fois, il y a des gens, puis je dois lever la main dans un tout autre contexte, mais qui aiment ça penser que ça se peut quand c'est trop beau pour être vrai. Puis ces gens-là se font souvent prendre.
Oui, puis c'est drôle parce que le portrait de la victime de fraude a comme changé un petit peu là, dans les dernières années. On avait comme le stéréotype de grand-maman sur son laptop qui pèse à des places qui n'est pas supposée peser. Là.
Par exemple, ou qui répond à la fameuse chaîne de courriel qu'il y a un prince qui va lui donner de l'argent. Là.
Ouais. Ou elle clique sur le lien.
Exactement. Ça existe encore, là, mais c'est plus tout à fait ça. C'est les jeunes, présentement, qui sont ceux qui tombent dans le plus de panneaux, on pourrait dire comme ça. Puis, tu sais, là, mars, c'est le mois de la fraude. Ben, en fait, non. Ça serait pas winner.
Prévention, on va
en
dire.
En mars, on fraude.
C'est pas, ça? Pas un bon pitch.
Le principe de la purge niveau financier.
C'est le mois de la prévention de la fraude. Puis l'Autorité des marchés financiers a fait un sondage avec Léger où ils posaient des questions un petit peu pièges, là. Ils voulaient savoir, voici tel investissement qui pourrait possiblement s'offrir à toi. Est-ce que tu investirais là-dedans? Oui, non, peut-être, pourquoi? Puis évidemment, ces investissements-là n'étaient pas réels, étaient beaucoup trop beaux pour être vrais. Puis justement, officiellement, le rendement de cet investissement-là, c'était 20 % annuellement.
Wow!
Fait qu'ils disaient aux gens, regarde, c'est pas compliqué, là, cette affaire-là, là, c'est 20 % minimum. Minimum étant un mot-clé important dans la phrase, parce que des investissements que vous avez peut-être à la banque ou à caisse qui font 20 % sur une année donnée, il y en a. Là. On a eu l'année passée, on a eu il y a 2 ans. Par contre, 20 % minimum à chaque année, c'est comme un autre game. Là. Puis tu vois, dans les groupes d'âge, les gens qui ont dit oui le plus, là, c'est les 18 à 24 ans. Il y a 22 % d'entre eux qui ont dit « Ben oui, parfait, où est-ce que je signe? Je le fais. »
Mais j'ai l'impression que c'est tellement une génération qui s'est fait dire « Hey, en investissant, par exemple, dans la crypto-monnaie, tu fais tellement de l'argent vite que c'est comme si pour eux autres, c'était possible d'avoir des investissements qui avaient un aussi grand rendement sur une aussi courte période. »
Oui, puis ils sont surtout exposés à beaucoup de contenu qui va en ce sens. Mm-hmm. Tu sais, quand tu regardes les groupes d'âge, là, t'as les 18-24, tu as 22 % là, qui disaient « Oui, parfait, je le fais. » Plus on vieillit, plus le pourcentage de gens qui ont dit oui à ça diminue. Quand tu t'en vas à l'autre extrême du spectre, les 65+, il y a seulement 1 % d'entre eux qui sont tombés dans le panneau. Là. On est quasiment dans l'erreur statistique, essentiellement.
C'est parce qu'on dirait que quand tu es plus jeune, dans ta tête, tu n'as pas grand-chose à perdre de toute manière. Ouais. J'ai l'impression que tu es un peu plus téméraire à ce niveau-là.
T'es moins proche de la retraite.
Ouais, c'est ça.
Tu dis au pire, je vais me refaire.
T'as du temps, là.
Il y a ça, puis il y a aussi l'autre partie de cette équation-là qui est... Puis on en a parlé la semaine passée, là. Les jeunes se font tellement bombarder par l'idée que, hey, t'en auras pas de maison, t'en auras pas de retraite, ça va être bien plus difficile pour toi que tes parents.
C'est vrai.
Pour certaines personnes, c'est vrai, mais on a fait le constat la semaine passée, là. C'est pas vrai pour la génération au sens large, mais quelque chose qui est faux, suffit que ce soit répété assez souvent, puis soudainement, il devient vrai dans l'univers collectif, là. Fait que quand toi, tu te fais driller par la notion que, hey, t'es pas dans une bonne position financière, puis quelqu'un te fait miroiter un 20 %, ben peut-être que t'es plus vulnérable.
C'est plus attirant. Puis on dirait que c'est même au-delà. Là, on parle de placement, mais tu te dis, quand tu martèles un message, il finit par rentrer. Mm-hmm. Et au-delà des placements là, qu'on te promet que tu peux faire sur les réseaux sociaux, n'importe quelle petite jobine qui est donc bien facile sur les réseaux sociaux t'est proposée, puis là, c'est des faces que tu connais qui te disent que non, viens-t'en, tu vas voir, ça va prendre 3 mois, puis tu vas faire 60 000 $ à parler de telle affaire. Puis il y a tellement de petites opportunités qui te sont présentées qu'on dirait que tu mets tout ça dans le même panier, puis tu sais plus ce qui est vrai puis ce qui l'est pas.
Puis il n'y a pas aussi peut-être un manque d'expérience tout simplement, parce que, tu sais, je regarde la courbe des âges, puis c'est vrai que quand tu as 65 ans, tu as beaucoup plus interagi avec des conseillers financiers.
T'en as vu plus aussi.
T'as géré des REER, etc. Alors que quand tu es jeune, tu as vraiment une absence de connaissances. Puis est-ce que je me trompe ou au Québec, on n'est pas les champions de la connaissance financière non plus? On n'enseigne pas beaucoup ça aux jeunes, de comment on gère notre argent et tout ça. Ça peut-être aussi culturellement, c'est un tabou au Québec, l'argent.
Oui. Mais pour la première partie de ta question, puis ça, c'est vraiment intéressant, là, on a un des gros enjeux, puis ça, c'est vrai pour les 40 ans et moins. Là. C'est pas juste pour les petits jeunes au cégep. Là. Moi, je le vois beaucoup, là. T'as la période de 15 ans de laquelle on sort, là. Mettons, au niveau des marchés boursiers, là, la période qui part du 31 décembre 2025 puis recule de 15 ans, mm-hmm. C'est une des meilleures périodes de 15 ans de l'histoire des marchés boursiers. Il faut retourner aux années 1800 pour voir quelque chose d'à peu près comparable. Fait que les gens qui ont moins de 40 ans, le fameux risque là, que les rabat-joie comme moi parlent toujours, là, il ne s'est jamais concrétisé vraiment pour
un effondrement, on ne l'a pas vécu dans les 15 dernières années.
Non.
Donc, on a confiance davantage?
Ben, on a confiance. C'est surtout que, je te donne un exemple. Mettons, quelqu'un qui a, ça a été part de 2023. La personne a 28 ans, puis en 2023, elle avait 25 ans, fait que là, elle a commencé à investir. En 2023, mettons que cette personne-là est exposée au marché boursier de façon significative, là, elle a fait plus que 20 % en 2023. Elle a fait plus que 20 % en 2024. Elle a fait plus que 20 % en 2025. Puis là, tu vois, depuis le début de l'année, mais là, aujourd'hui, non, on va voir, là, mais c'est pas...
T'es... Ça allait pas bien matin.
Non, c'est ça. On va voir demain. Mais elle a quand même un bon rendement jusqu'à présent dans l'année. Fait que cette personne-là, j'ai bien beau lui dire, hey, les risques des marchés boursiers, elle est comme Alex Tailleul, là, ça fait trois
ans. C'est
pas
concret, les risques se sont jamais concrétisés, donc
ben oui.
Ça n'existe pas.
J'ai bien beau y parler de 2008, de 1929,
ça dit rien.
C'est pas concret pour elle. Puis justement, il y a une étude qui a été faite avec la crise de 2008. Les gens qui ont commencé à investir, parce qu'essentiellement, notre relation avec les marchés boursiers là, est marquée à vie par notre premier contact avec les marchés. Fait que les gens qui ont commencé à investir en 2008, là, septembre... Ouais, toi,
c'est de mon âge, ça!
Que, septembre 2008, là, quand la chaîne a débarqué pour de vrai, là, mettons la personne qui avait mis 10 000 $ au mois d'août, là, qui était comme, je commence ça, l'investissement, ça a l'air pas pire, ben, cette personne-là avait quasiment moins 50 % là, en l'espace d'un an. Encore aujourd'hui, ces personnes-là sont marquées par ça. Pourquoi? Parce que le risque duquel je parle, c'est pas rien qu'il y a un aperçu de fond, mm-hmm. que c'est quelque chose de concret pour eux. Les gens qui ont commencé à investir en 2009, qui ont le même âge, là. C'est le même type de personnes, la même génération, c'est une question de mois. Ben, ces gens-là, aujourd'hui, en mars 2026, j'ai de la misère avec les dates. En mars 2026, cette personne-là prend beaucoup plus de risques dans ses placements que l'autre, en moyenne. Pourquoi? Parce que son premier contact à elle,
ça a, bien été.
Ça a été super positif. On sortait de la crise. Ça faisait juste monter. Puis elle, elle a raidé sur une vague de 15 ans où, à part 2022, où ça a un petit peu moins bien été, on a toujours été dans le vert. Puis pas dans le vert à plus 2 %, dans le vert à plus 10, plus 15, plus 20. Fait que ça, c'est un gros problème. Bien, c'est un problème. Ça a généré de la richesse pendant cette période de 15 ans-là. Mais il y a beaucoup de gens présentement là, qui prennent un risque énorme, qui n'en sont pas conscients parce que c'est comme artificiel pour eux autres. Ouais. Ils comprennent moins parce qu'ils ne l'ont pas vécu.
Ils n'ont rien perdu. Ouais. Comment tu fais pour valider qu'une information sur l'investissement est crédible en ligne? Parce qu'honnêtement, moi, demain matin, je ne peux pas m'y retrouver.
Oui. En ligne, c'est difficile là, parce que, justement, tu te fais des gens qui vendent des formations, des gens qui vendent un paquet d'affaires. Là. Il y a des registres officiels qui existent. Okay? Puis ça, on en a déjà parlé ensemble. Mm. L'Autorité des marchés financiers. Toute personne qui détient un permis, là, de quelque nature que ce soit, qui touche de près ou de loin aux services financiers. Là. Pensez à un planificateur financier, pensez à un courtier en valeur immobilière, pensez à un courtier hypothécaire, pensez à n'importe qui a un permis, là, il est supposé se retrouver sur le site de l'AMF. Fait que ce que ça veut dire, c'est dans le concret. Je vois une offre super intéressante, un gars sur Facebook qui dit hey, « je te vends soit une formation ou un produit d'investissement, que gars, ça fait 15, 20, 25 %. » Bien, si tu prends le nom de cette personne-là puis tu t'en vas le mettre dans le registre puis il ne sort à rien, bien, on a un enjeu. Cette personne-là, ses antécédents criminels n'ont pas été... Je suis là-dedans ces temps-ci, là, mes renouvellements de permis, justement. Là. Hey, c'est complexe, c'est de la chenoute à gérer, mais c'est bon que ce soit ça. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que n'importe qui puisse exact. Ouvrir une boîte de céréales puis avoir un permis. Il faut toujours que tes antécédents soient revérifiés. Il faut que tu repayes, ils refont tout. T'sais, mettons, là, je suis ici présentement. Bien, ça, c'est une activité externe là, que je dois déclarer à l'AMF. Hey, je suis en train de faire ça. Je te pose la question, est-ce que ça te place dans un conflit d'intérêts, ainsi de suite? C'est tannant, des fois, mais c'est bon. On a besoin de ça pour protéger le public. T'sais, le but de l'AMF, c'est de protéger le public. Fait que si jamais, justement, quelqu'un se fait aller les conseils financiers et qui n'est pas sur le registre, on a déjà un enjeu là. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas autorisée puis que si jamais il se passe quelque chose, bien, on a beaucoup moins de recours.
Si ici, on n'a pas de réglementation parce que c'est... C'est un drôle d'exemple. Là. Je vais vous parler de la Chine, qui n'est pas connue pour ses libertés et toute l'équipe. Là. Mais eux ont commencé à mettre en place des obligations. Si tu dois te prononcer sur la santé, les finances, il y a comme des domaines en particulier, tu dois te démontrer que tu as une expertise, que tu as une certification, que tu as un diplôme.
Ça.
C'est ultra brillant.
Parce que c'est pas juste en finance qu'on se fait prendre. Là. Il y a du monde qui se disent psychologues, il y a du monde qui se disent nutritionnistes.
Exactement. Fait que ici, c'est la ceinture et les bretelles. C'est à nous de faire les vérifications parce qu'on n'a pas... instaurer quoi que ce soit encore en ligne.
L'autre affaire, là, par rapport aux crypto-monnaies, parce que les jeunes, là, il y a beaucoup d'attrait avec les crypto-monnaies.
Il y a tellement d'applications pour le faire, c'est tellement simple.
Il y en a un million. Puis justement, on peut avoir une discussion par rapport à la nature de l'actif. Là. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon?
Rapidement, ça l'est-tu ou ça l'est pas?
Bien, voilà comme ça. C'est un actif qui est hautement spéculatif. Ça veut dire que ça peut faire dans une année, puis on l'a vu. Là. Souvent, c'est rare que le Bitcoin va faire, parce que c'est la plus grosse crypto-monnaie, là, mais c'est rare que ça va faire 8 % dans une année. Ça va faire soit plus 80 ou moins 72. C'est comme souvent, on est dans les deux extrêmes. Fait que c'est un actif qui est hautement volatile. Tu vois, depuis quelques années, là, moins au Québec, mais les fonds de pension commencent à mettre de l'argent là-dedans. Fait que les fonds de pension aux États-Unis, les fonds de pension en Ontario. Fait que des fois, il y a des gens qui possèdent la crypto-monnaie sans s'en rendre compte. Mais comme n'importe quel actif qui est spéculatif, tu ne vas pas mettre tous tes œufs dans ce panier-là.
Mais es-tu en retard dans la vie si tu n'as pas de crypto-monnaie?
Non.
T'as-tu rien compris?
T'as pas rien compris. C'est juste, voilà comme, regarde, je m'en vais au... tu sais, le Salvatore sur Bouvier, là.
Oui.
Il y a la pizza à volonté, puis t'as un sundae qui vient avec.
Ouais.
Là, je me suis fait un sundae l'autre fois. J'ai mis du coulis au chocolat dessus. C'était bien parfait, mon sundae, là. J'ai rajouté, t'as pas l'air de savoir où je m'en vais avec ça.
Ben, je te suis. J'ai
non, mais tu parles de bouffe, ça la passionne.
Je suis toute là.
J'avais l'option de rajouter des espèces de petits sprinkles dessus.
Oui.
La crypto-monnaie voilait comme le petit sprinkle sur
la les petits bonbons. Là.
T'en as pas absolument besoin. Là. Ton sundae, il est écœurant sans ça. Là.
Mais c'est hot, des bonbons,
mais
des fois.
Mais si
là,
ça te tente...
Je comprends.
Mais t'augmentes ton risque aussi. Là,
ouais.
Cholestérol.
C'est
ça.
Ça. C'est moins bon pour la santé. Hey, là, tu parles dans mon langage.
J'ai fait mon exemple un peu sur le spot, là. Mais je peux pas le réutiliser.
Oh, non, je l'aime, je l'aime.
Fait que tu sais, là où je veux en venir, c'est que l'Autorité des marchés financiers, ils disent, regarde, mettons que toi, tu veux investir en crypto-monnaie. Mettons que c'est quelque chose qui t'allume, parfait. On ne va pas nécessairement te recommander de le faire. Mais si tu veux le faire, il y a sur leur site là, un registre de plateformes qui sont autorisées. Wealthsimple en est une, ShakePay, je sais que c'est quand même populaire au Québec, ShakePay. Fait qu'eux autres te disent, hey, si tu veux utiliser cet actif-là, investir là-dedans, voici des plateformes qu'on autorise. Donc, les antécédents criminels de tout ce monde-là ont été validés parce qu'en crypto-monnaie, souvent, tu as un risque de plateforme. C'est-à-dire, oui, l'actif est volatile, mais au-delà de ça, des fois, il y en a qui vont mettre ça sur n'importe quelle plateforme qui a été créée. Il y a beaucoup de plateformes frauduleuses là-dedans. Fait que si tu t'en vas mettre ça un petit peu n'importe où, puis tu te fais frauder ou tu perds ton argent, ben, si la plateforme n'a pas été vêtée par qui que ce soit au niveau réglementaire, ben, ils ne pourront pas t'aider tant que ça. Là. Fait que justement, si les jeunes se disent « Hey, c'est un actif dans lequel je veux investir », ben, l'AMF te donne justement une genre de marche à suivre à savoir où est-ce que tu devrais le faire.
J'imagine que dans les autres trucs, de parler à quelqu'un en personne au lieu de faire ça par les internets, ça peut être pas pire. Là.
Ça, je le vois de plus en plus. Puis c'est drôle parce que avec la pandémie, il y a comme eu un... Tout le monde s'est mis à faire des rencontres virtuelles là, dans mon domaine. Là. C'était comme... Il y en a beaucoup qui n'ont plus de bureau physique, puis ça. Mais particulièrement dans le monde bancaire, là, justement, les fraudes téléphoniques, à savoir, hey, je reçois un appel, c'est écrit RBC, c'est écrit Desjardins, c'est écrit peu importe la banque. Là.
Alors que maintenant, il y a des applications qui permettent de fausser carrément le numéro de téléphone.
Ben oui. Fait que tu sais, c'est comme devenu facile pour des fraudeurs. Tu sais, les fraudeurs, s'ils ont une seule qualité qu'on peut leur donner, là, c'est qu'ils sont vraiment bons.
Ouais.
Ils sont excellents.
Ils sont minutieux.
Ce qu'ils font,
hein?
Ce qu'ils font, c'est horrible, mais ils sont excellents pour le faire. Fait qu'ils ont tellement de manières maintenant. Tu sais, justement, on parlait du stéréotype tantôt. Là. Moi, là, il y a plusieurs années, là, j'étais, puis peut-être j'étais dans l'erreur, là, je voyais une victime de fraude en ligne, puis là, j'étais comme, hey, come on. Là.
Poisson.
Ben oui. Puis là, plus on en voit dans les journaux, justement, des fraudes élaborées, là. Que moi, des fois, je me dis...
Ça s'est raffiné beaucoup, là.
Ça s'est raffiné
mais,
énormément.
Tu dis, ce qu'on peut leur donner, c'est qu'ils sont bons, mais c'est vrai qu'on a vu des choses vraiment ridicules, que, tu sais, on veut pas juger les gens qui sont tombés dans le panneau, mais c'est...
C'est facile de le faire.
Il y a des choses qui étaient vraiment louches. Mais là, ils se sont extrêmement perfectionnés. Là. N'importe qui d'entre nous, on pourrait tomber dans le panneau, là, si on vérifie pas puis si on fait pas attention.
Vraiment. Puis je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une cliente, là, il y a quelques... Ça doit faire un an et demi à peu près. Tu sais, dans ma liste de clients, là, tu m'aurais dit, OK, Alex, c'est qui la dernière cliente là, qui va tomber dans une affaire de même? Là? Puis je t'aurais dit, sans hésiter une seconde, elle. Et une dame d'une intelligence intimidante. Là.
À ses affaires.
Ouais. Puis elle m'avait envoyé à un moment donné un article, puis justement, elle me l'a envoyé avant de faire quoi que ce soit. Fait que elle a eu le bon réflexe. Là. C'était un article du Toronto Star, mais tu sais, l'URL, c'était mettons Toronto, puis Star, à la place d'être un T, c'était un L minuscule. Fait que si tu regardes vite, ça a l'air d'un article du Toronto Star, crime, média crédible. S'ils font un article là-dessus, ça doit être bon. Puis c'était quand Chrystia Freeland était ministre des Finances, il y avait beaucoup de deepfake, des fausses entrevues qu'elle avait faites. Il prenait sa voix, il a modifié, puis il était ministre des Finances. Fait que là, c'était comme une entrevue d'elle à CTV, qui est encore là, une plateforme connue au Canada anglais. Puis elle parlait de la nouvelle crypto-monnaie du Canada, nouvelle crypto-monnaie officielle, dans laquelle je ne me rappelle plus du détail exact, là, mais c'était comme tu faisais un virement de 350$, puis il garantissait que ce serait 700, mettons, à tel moment. Puis la madame était comme, hey, Alex, tu ne m'as pas parlé de ça. Puis est-ce que tu me recommanderais de mettre le 350? Elle dit c'est quand même une bonne espérance de rendement. Puis là, j'ai expliqué l'URL. Puis ça. Puis,
elle devait être insultée de s'être fait prendre, là.
Ben oui, mais. Je peux pas dire « Ice Client », là, c'est une nunuche, là. Parce que c'était tellement bien fait que si tu regardes vite, puis si justement t'as pas... Moi, je suis sûr, OK, la finance, c'est ma science, mais je suis sûr que je suis super vulnérable dans d'autres affaires, là. Ça se peut très bien que je vois quelque chose... Que...
Toi aussi, tu vas te faire pogner avec un masque coréen, tu vas voir.
Ça se peut très bien.
Non, mais c'est nouveau qu'on doit... On doit douter de tout. Je trouve ça tellement nul.
On doit douter des personnalités connues, des personnalités qui ont une notoriété. Tu sais, la semaine passée, Denis riait parce que c'était la personne s'était fait prendre dans une vidéo où c'était Justin Trudeau puis François Legault ensemble. Mais d'un autre côté, dans la même semaine, c'était Gérald Filion qui anime Zone Économie à RDI, qui était dans une vidéo de deepfake de ce type-là. T'sais, pour plusieurs personnes, ce gars-là est une référence, il y a une crédibilité. Fait que pour le commun des mortels, t'es comme « Ah ouais, il dit ça? Ah, mais ça doit être vrai! »
On consomme sur les réseaux sociaux pour notre plaisir, dans nos temps libres, quand notre cerveau et sa tablette, après notre job, après s'être concentré, après... On dirait que tu veux pas...
À un moment, le doute peut s'installer plus facilement.
Oui,
mais c'est lourd de devoir tout le temps douter, analyser, vérifier. Ça peut être lourd, mais ça vaut la peine.
On le voit ces temps-ci. Moi, je suis un gros consommateur de Twitter, là, de X. Puis, eux autres, ils t'envoient juste des affaires qui t'intéressent. L'algorithme est bien fait. Puis, depuis... sûrement que tu es là-dedans aussi, Antonine. Là, depuis 6 mois, là, toutes les affaires par rapport aux... les nouvelles aux États-Unis, puis les Epstein Files, puis ça. Puis là, tu vois quelque chose, puis là, t'es comme... Hey, là, j'ai toujours le réflexe un peu. C'est vrai, je suis capable de trouver ça à un endroit crédible. Puis la majorité du temps, c'est pas vrai.
Aller faire le tour de Google actuellement.
Moi, je suis rendue malheureusement que je crois plus rien de ce que je vois. Là, tu parlais de trucs plus sérieux, là, mais tu sais, mettons, des vidéos d'animaux maintenant qui font des choses drôles. Je me dis, c'est une intelligence artificielle. Ça a tué le plaisir aussi. Mais quand on parle de fraude financière, c'est vraiment plus grave qu'une vidéo d'animal de petit lapin qui saute sur un trampoline. L'impact est grand. Donc, ça vaut la peine d'aller vérifier. La clé, c'est l'AMF, dans le fond. T'sais. C'est ça la chose la plus simple à faire?
Écoute, l'AMF est une super bonne ressource pour ça. Là. Une partie de la clé, c'est ça. Puis tout ce qui est téléphonique, OK? Il y a beaucoup de... Ces temps-ci, les fraudes sont beaucoup téléphoniques. Là. Justement, on va recevoir un appel. Si tu écris le ID de Caller ID.
Oui, le numéro de téléphone.
Ouais. C'est notre banque ou c'est quelque chose en quoi on a confiance. Fait qu'on a le réflexe de répondre puis d'écouter. La recommandation qu'on fait aux gens, là, c'est peu importe à qui tu parles, là, parce que maintenant, même si c'est une voix que tu reconnais, cette voix-là peut être recopiée par l'intelligence artificielle. Dis, garde, moi, je te rappelle au numéro que j'ai déjà pour vous dans mes dossiers. Fait que dans le pire des cas, là, tout le monde aura perdu 2 minutes de sa vie puis c'est pas une fraude. Mais souvent, là, c'est ça. La personne dit « Hey, j'appelle de telle succursale de la banque ou telle succursale de la caisse. » Puis quand la personne raccroche puis rappelle à la caisse ou à la banque, on se rend compte que cette personne-là n'existe pas. Puis souvent, ces fraudes-là, là, c'est ils vont t'appeler, ils vont dire « Hey, on a un problème avec ton compte, blablabla. » On t'envoie un lien. Ce lien-là, on parlait des URL qui sont faux. C'est exactement le portail de votre institution financière là, en tout point. Là. Ils l'ont juste copié. Fait que toi, c'est une plateforme que tu connais. Tu t'en vas mettre ton courriel, ton numéro de carte.
Surtout
que
dans la version mobile, tu ne vois pas nécessairement l'URL au complet. Fait que tu fais confiance.
Puis, ultimement, cette page-là, c'est juste un front. Puis toi, le fait que tu aies mis ton identifiant puis ton mot de passe, ben, ça vient juste de donner ces deux informations-là au fraudeur. Puis tu te connectes sur ton vrai compte bancaire 3 heures après avoir compris que tu t'es peut-être fait avoir. Puis tes comptes sont à zéro, ils sont tous virés l'argent.
Ah, c'est
les
triste.
Banques aident, OK? Mais ça reste que... Il n'y a peut-être pas au rythme et à la vitesse à laquelle on voudrait qu'elles aillent.
Et puis, c'est pas toutes les fraudes qui sont dénoncées non plus. Là. Ce monde-là font de l'argent à taboire. Là.
Selon le Centre antifraude, là, en 2025, il y a 638 millions de dollars de fraudes qui ont été répertoriées. Là. Fait que la personne s'est rendue compte de ça, elle a appelé et a dit « Hey, je me suis fait frauder pour X ». Par contre, selon le même centre antifraude, il y a seulement à peu près 10 % des fraudes qui sont dénoncées.
Pas beaucoup, là.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de honte derrière ça. Oui. C'est sûr que quand tu pensais pendant 6 mois que Laurent Fabien trippait sur toi, ça ne te tente pas de le crier sur tous les toits.
Exact.
Fait que 10 % des fraudes, ça voudrait dire que les fraudes annuelles sont plus, tu sais, quelque part entre 6 et 7 milliards de dollars annuellement. Là. Fait que moi, ce que je dis toujours, là, c'est l'investissement, là, c'est supposé être plate. Fait qu'on a un problème. Si la personne qui vous vend un investissement. Si l'investissement vous allume, là, on a un problème. Là.
Si c'est sexy, ça marche pas.
C'est déjà trop.
C'est vraiment boring. C'est supposé bon, light. Là. C'est pas supposé être super. Hey, ah ouais, non. C'est supposé... OK, c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. T'sais, c'est on s'enrichit lentement en investissement. Si on reste vrai à notre stratégie, on va gagner à long terme. Par contre, ce ne sera pas instantané. Fait que ça, c'est toujours important. Là. Si c'est le fun, on a un problème. Si on fait juste parler du rendement passé d'un investissement, sans jamais parler des pertes, là. Souvent, on le voit souvent. Là. Mm-hmm. Hey, ce fonds-là, il a déjà fait 20 % dans une année, il a déjà fait 30 % dans une année. Ça peut être vrai. Ça l'est fort probablement. Mais s'il y a des années à plus 30, c'est assurément qu'il y a des années à moins 15, moins 20, moins 25. Si on ne parle pas de ces années-là, on a un enjeu. Puis l'autre chose, moi, je le vois souvent, là, on parle des rendements moyens historiques. Tu sais, mettons, on dit, hey, depuis 2012, ce fonds-là, il a fait 15 % en moyenne. Je comprends, mais tout ce qui est après 2008, là, c'est des données qui sont non pertinentes, là. Mmh. Qui sont non représentatives de c'est quoi un investissement. Fait que là, il y a beaucoup, on s'entend, 2008, ça fait quasiment 20 ans. Là. Fait qu'il y a beaucoup de produits qui ont été créés depuis ce temps-là, qui n'ont jamais vraiment vécu de cataclysme financier. Là. Fait que mon fonds a bien beau avoir fait 8 % en moyenne depuis ce temps-là, 10 % en moyenne depuis ce temps-là, ça ne me dit rien sur comment ce fonds-là se comporte dans une période tumultueuse. T'sais. Oui, 2022, mettons, n'a pas été une bonne année, mais moi, j'aime ça, t'sais, avoir une historique qui recule avant 2008, parce que j'aime ça pouvoir voir, OK, quand la chaîne débarque, comment cet investissement-là se comporte? Fait que ça ne veut pas dire que tous les produits qui sont après 2008 ne sont pas bons. Ce n'est pas ça la conclusion de ça. Mais faites attention, quand le rendement moyen du produit qu'on vous présente est super intéressant, OK, oui, mais il commence quand ce rendement-là?
Parce que surveillez-vous.
Que les 15 dernières années ont été plus non représentatives de c'est quoi l'investissement boursier en temps normal.
Fait que surveillez-vous, surveillez vos proches et faites affaire avec un planificateur financier. Alex Leblond, toujours un plaisir, merci.
Salut.
On retourne dans la circulation rapidement parce que ça commence à s'intensifier. On approche l'heure de pointe sur un méchant temps. Capitale Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est déjà très au ralenti. Laurentienne Sud dans la bretelle pour aller chercher Capitale Ouest, problème de ce côté-là aussi. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid Hamel et la capitale, difficile. Char et Est, hauteur, Robert Bourassa. Henri IV Sud, à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts, c'est déjà pas mal au ralenti. Si vous êtes sur Duplessis Sud, c'est de chemin Sainte-Foy au pont Pierre-Laporte. Pour ce qui est de la rive sud, c'est pas si pire. Là. Il y a peut-être un léger ralentissement hauteur Taniata, mais rien de gros. Quoi que ce soit d'autre, 88 971 1021 texto, vous êtes dans Gravel en retour.
Gravel